أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد. أما بعد، toutes les louanges vont à Allah, mes frères. الحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges vont à Allah. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. L'unique sans associé. Et j'atteste que notre prophète Mohammed est son envoyé et son serviteur. Que les prières et le salut d'Allah soient sur lui, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, on ne parlera jamais assez de l'aspect extraordinaire, de la grandeur, de la personnalité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car sa grandeur impressionne les esprits, sa grandeur dépasse les intelligences, et sa grandeur bouscule toutes les idées. Il était grandiose et véridique, sallallahu alayhi wa sallam. Son message a des bases plus solides que les montagnes, et les principes qu'il a fondés ont marqué l'histoire à jamais. À chaque fois qu'on évoque son nom, sallallahu alayhi wa sallam, on découvre une nouvelle facette de sa grandeur. Après avoir découvert, la semaine dernière, la manière qu'il avait d'adorer et de servir son Seigneur, aujourd'hui, nous évoquerons sa patience et son endurance, ce qu'on appelle en arabe « as-sabr ». Il avait une patience et une endurance exemplaires en toute situation. Et la patience, mes frères, est une qualité que Allah a évoquée à maintes reprises dans le Coran. Allah félicite ceux qui patientent, Allah leur annonce leur fruit, le fruit de leur patience, et mentionne de belles récompenses dans l'au-delà. Allah dit à son messager dans le Coran « fasbir sabran jamila », c'est-à-dire « patiente donc d'une belle patience ». Si tu vois que le mensonge prend le dessus sur la vérité, et si tu vois que la tyrannie l'emporte, patiente donc d'une belle patience. Si tes biens s'amoindrissent, si la pauvreté et la privation s'installent, et si les problèmes et les chagrins te tombent dessus, patiente donc d'une belle patience. Si tu as de moins en moins d'amis, de proches et de gens qui prennent ta défense, si tu as de plus en plus d'ennemis et d'hostilité contre toi, patiente donc d'une belle patience. S'ils mettent des obstacles sur ton chemin, s'ils te causent des difficultés, s'ils te menacent et qu'ils réservent les pires de leur méchanceté pour toi, patiente donc d'une belle patience. Si tu perds tes enfants, si tu es séparé de tes bien-aimés, si tu es séparé de tes proches, patiente donc d'une belle patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est et sera toujours un exemple d'endurance et de patience. Il vivait à la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il soit chassé, lui et ses proches. Ses propres oncles et ses cousins l'ont rejeté et ils ont combattu ses sympathisants. Il lui a été imposé un embargo à lui et à ses proches, et il était tellement rongé par la faim, mes frères, et par la soif, qu'il s'attachait une pierre sur l'estomac pour se soulager de la sensation de la faim. Et en toutes ces situations, il a fait preuve d'une patience exemplaire, appliquant le verset d'Allah, patiente donc d'une belle patience. Son fils Ibrahim est mort dans ses bras, alors qu'il était âgé de 2 ans, mes frères, un nouveau-né. Il regardait tendrement son fils chéri mourir dans ses bras, tandis que ses larmes coulaient sur le visage de son fils bien-aimé, faisant preuve d'une patience incroyable dans un moment aussi difficile. Il dit, les yeux pleurent et le cœur s'attriste, mais nous ne dirons que ce qui plaît à notre Seigneur. Nous sommes certes très attristés de ton départ, ô Ibrahim. Son épouse Khadija, radiyallahu anha, meurt à son tour. Khadija, qui était une femme brillante, attentionnée, pleine de cran et de bonne volonté, celle qui avait vécu dans la maison de la prophétie. Khadija avait depuis toujours donné son soutien et sa protection au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était celle à qui il se plaignait du nombre croissant de ses ennemis. Elle mourut à un moment où les problèmes et les tristesses s'accumulaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il vivait encore à la Mecque. Elle mourut dans l'année que l'on a appelée l'année de la tristesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit une fois de plus preuve d'une patience qui dépasse toute limite, suivant le conseil de son Seigneur le Très-Haut, patiente donc d'une belle patience. Les non-croyants de la Mecque complotèrent contre lui, parmi eux ses propres oncles et les gens de sa famille proche. Ils décidèrent de le tuer une bonne fois pour toutes. 5 jeunes hommes entrèrent chez lui chacun d'eux armé d'une épée fraîchement aiguisée, plein de rancune et de jalousie à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la ferme intention d'en finir avec lui. Malgré cela, lorsqu'ils entourèrent sa maison, il fut l'homme le plus calme et le plus patient. Il sortit de sa maison sans que eux ne s'en rendent compte. En effet, Allah le Très-Haut les avait plongés pour un laps de temps dans une inconscience, une perte de conscience, un sommeil qui fit qu'ils n'avaient pas remarqué la sortie de celui qu'ils cherchaient, sallallahu alayhi wa sallam. Il jeta alors sur eux symboliquement de la poussière, du sable sur leur tête, alors qu'ils étaient inconscients. Leurs mains lâchèrent et les épées tombèrent. Tandis que le messager d'Allah lisait le verset suivant du Coran, « Et nous mettrons devant eux une barrière, et derrière eux une barrière, nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils seront incapables de voir quoi que ce soit. » Il est alors sorti discrètement de Mecca, sallallahu alayhi wa sallam, et s'est dirigé vers la grotte de Thawr, afin de ne pas être vu par ses ennemis. Ils complotaient contre lui, et ils suivirent ses traces, et se retrouvèrent rapidement juste au bord de la grotte dans laquelle ils se cachaient. Ils étaient sur le point d'entrer dans la grotte, mais ne le firent pas. En effet, avant qu'ils n'arrivent dans la grotte, Allah avait fait intervenir quoi ? Une araignée et un oiseau, pour repousser les ennemis de son bien-aimé. En effet, l'araignée tissa sa toile à travers l'orifice qui servait d'entrée dans la grotte, et l'oiseau construisit son nid à l'entrée de la grotte. Ils étaient là, debout, devant l'entrée de la grotte, mais ils ne voyaient pas ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni son compagnon Abu Bakr. Car Allah le Très-Haut était avec eux et les protégeait. Abu Bakr, radiyallahu anhu, racontera beaucoup plus tard, « Alors que nous étions dans la grotte, je dis à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'eux baisse son regard au niveau de ses pieds, il nous verra sûrement. » Et l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wa sallam, sourit et me dit, « Oh Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes dont le troisième est Allah ?» Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam révéla à Abu Bakr une phrase que Allah reprendra dans le Coran, « Ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. » Et cette formule, mes frères, est restée après le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une règle de vie que chacun de nous doit appliquer. Si tu es affligé par la faim et la soif, ne t'attriste pas, car Allah est avec toi. Si tu perds ton fils ou ta fille, ne t'attriste pas, car Allah est avec toi. Si les obstacles s'accumulent sur ton chemin, ne t'attriste pas, car Allah est avec toi. Oui, mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est et sera toujours l'exemple d'endurance et de patience. Alors, ils sortirent de la grotte, se dirigèrent vers Médine, Al-Madina. Les gens de la Mecque étaient prêts à tout pour les rattraper, promettant 100 chameaux à celui qui les ramènerait, morts ou vivants. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon traversaient le désert, affamés et assoiffés, un homme les rattrapa, Suraqa ibn Malik. Ce Suraqa était armé d'une lance et d'une épée, doublement armé. Et lorsque Suraqa fut bientôt très proche, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dit « Ô messager d'Allah, il nous a presque rattrapés ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit une fois de plus, car il savait que son chemin ne pouvait s'arrêter là. Il savait que son message allait perdurer au-delà de tout ce que pouvaient manigancer ses ennemis. Il sourit et dit de nouveau « Oh Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes, dont le troisième est Allah ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda le secours de son Seigneur. Il fit une invocation. Et dès qu'il avait fini son invocation, le cheval de Suraqa tomba par terre. Suraqa releva son cheval et se remit en route. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam refit une invocation. Alors le cheval perdit de nouveau l'équilibre et Suraqa comprit alors que ces deux-là étaient protégés par une puissance suprême, une puissance invisible. Il demanda alors la grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rendez-vous compte, mes frères, un homme qui a une lance et une épée qui demande la grâce et la paix à un homme qui, lui, n'est pas armé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui laissa la vie sauve et se dépêcha de rejoindre la ville de Médine. Arrivé à Médine, les épreuves continuaient de s'abattre sur lui. Il prit part à la bataille de Badr. Il subissait parfois une telle faim qu'il s'attachait une pierre sur son estomac. Mes frères, mes sœurs, à vous qui goûtez régulièrement des plats et des mets de toutes sortes, ainsi que des boissons délicieuses, à vous qui pouvez assouvir la moindre de vos envies Et vous qui portez les plus beaux vêtements, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le guide de l'humanité, le guide de l'humanité, Afwan, souffrez de la faim et de la soif, ne trouvant parfois même pas une poignée de dattes à manger. Ces trois filles sont mortes l'une après l'autre. Sa première meurt, il lave son corps, l'habille de son linceul, puis revient du cimetière avec le sourire, patiente donc d'une belle patience. Après quelque temps, la deuxième fille meurt, et il lave son corps, l'habille de son linceul, puis revient du cimetière avec le sourire, patiente donc d'une belle patience. Sa troisième fille meurt, il lave son corps, l'habille de son linceul, puis revient du cimetière avec le sourire, patiente donc d'une belle patience. Puis son fils Ibrahim décède à son tour, il lave son corps, l'habille de son linceul, puis revient du cimetière avec le sourire, patiente donc d'une belle patience. Quel cœur impressionnant, mes frères, quel cœur impressionnant de courage et de patience. Il participe, après cela, à la bataille de Uhud. Ses compagnons sont vaincus et ses proches sont tués. 70 compagnons tombent ce jour-là, parmi les plus valeureux des compagnons. Le premier d'entre eux fut Hamza, radiyallahu anhu, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hamza avait été toujours aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours prêt à se servir de son épée. Hamza est depuis ce jour-là surnommé le prince des martyrs. Lorsque la bataille se termina, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parcourut le champ de bataille pour voir l'étendue des dégâts. Il vit Hamza radiyallahu anhu. Il vit Hamza radiyallahu anhu qui n'était pas seulement mort mais aussi mutilé sur son corps. Il vit Sa'd ibn Rabi' dont le corps était également mutilé. Et il vit aussi Anas ibn al-Nadhir, radiyallahu anhuma, et bien d'autres de ses compagnons bien-aimés. Il ne put s'empêcher de pleurer, à un tel point que ses larmes mouillèrent sa barbe. Patiente donc, d'une belle patience. Après cela, il perdut trois de ses compagnons qui lui étaient le plus cher lors d'une même bataille, Zayd ibn Harith, Ja'far ibn Abi Talib et Abdullah ibn Rawah. Bien qu'étant à Médine, il les vit mourir alors qu'ils étaient à plusieurs centaines de kilomètres. Il les vit ensuite à ce moment-là entrer dans un paradis doré. Il eut alors un sourire, bien qu'il était en train de pleurer. Patiente donc d'une belle patience. Ses différents ennemis se rassemblèrent en une seule armée qui encercla la ville de Médine. Les musulmans creusèrent alors un fossé, une tranchée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam creusait lui-même de ses propres mains, alors qu'il avait attaché une pierre contre son estomac pour se soulager de la sensation de la faim. Il brisa de sa pioche un rocher dans le fossé que personne avant lui n'était arrivé à briser, avec la force extraordinaire que Allah lui avait fait grâce, ce qui provoqua d'énormes étincelles. Et il dit à ce moment-là, sallallahu alayhi wa sallam, « Voici les trésors d'Héraclius et de César. » Et je jure par Allah que je peux actuellement voir leur palais, car Allah va bientôt faire de leur terre des terres musulmanes. Les hypocrites se moquèrent de lui, et ils dirent, nul d'entre nous ne trouve ne serait-ce qu'une poignée de dattes à manger, et lui il nous promet les palais et le trône d'Héraclius et de César. Et lorsqu'il fut mis au courant de ces moqueries, il sourit, car Allah lui avait dit, patiente donc d'une belle patience. 25 ans plus tard, mes frères, l'Empire musulman avait gagné les terres d'Héraclius et de César et bien au-delà. Abu Jahl, l'un des plus farouches opposants, s'en prit un jour à sa propre fille, à la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'attaqua à sa chair, à son bébé, à son enfant bien-aimé, elle qui était plus blanche qu'une colombe, elle qui était plus pure que l'eau de source. Il frappa son visage, patiente donc d'une belle patience. Un jour, un bédouin le prit par le col d'une manière très rude et devant tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas un mot et finit par sourire. Patiente donc d'une belle patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des leçons tout au long de sa vie. Des leçons de patience, de savoir-vivre, de justice et de paix. Mais où sont donc ceux et celles qui lisent et méditent sur sa vie sallallahu alayhi wa sallam? Il restait parfois 3 ou 4 jours, sans qu'il n'ait de quoi calmer sa faim, ne serait-ce que quelques dattes ou un peu de lait. Malgré cela, il était reconnaissant et complètement satisfait des bienfaits que Allah lui avait donnés. Patiente donc d'une belle patience. Il dormait, sallallahu alayhi wa sallam, sur un tapis fait de nattes tressées qui lui laissait des traces sur le côté. Il était à même le sol, même en temps de grand froid, ne possédant aucun autre vêtement pour se couvrir. Sa maison était en argile. Elle était tellement étroite que lorsqu'il tendait la main, il pouvait toucher le plafond. Et lorsqu'il s'allongeait, sa tête touchait un mur et ses pieds pouvaient toucher l'autre mur. Telle était sa maison, mes frères. Pharaon avait une chaire en or, des couverts en argent et portait de la soie. Héraclius était couvert de satin, entouré de perles et de bijoux. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dormait par terre, mes frères. Jibril, l'ange Gabriel alayhi salam, vint le voir un jour avec les clés des trésors de ce bas monde et les proposa au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, si tu le souhaites, Allah t'offre une montagne d'or et d'argent. Et le prophète répondit sallallahu alayhi wa sallam, non, je préfère manger un jour et supporter la faim le lendemain, jusqu'au jour où je rencontrerai Allah. Et lorsqu'il était dans les agonies de la mort, on lui demanda s'il préférait vivre encore et rester dans ce bas monde, avec un royaume aussi prospère que celui du prophète Salomon, du prophète Sulaiman alayhi salam. Il dit, je préfère rejoindre le compagnon suprême, c'est-à-dire Allah. Je préfère rejoindre le compagnon suprême. Je préfère rejoindre le compagnon suprême. Connaissez-vous, mes frères, une grandeur d'âme plus forte que celle-ci? Quelle est cette belle patience, mes frères, que Allah a demandé à son messager d'observer? Il s'agit d'une patience qui n'est entachée par aucune plainte, aucun agacement. En effet, nos plaintes et nos besoins doivent être adressés à Allah seul, car il est celui qui répond aux invocations, le seul qui te sortira de la détresse, le seul qui te sortira de la pauvreté, le seul qui te sortira de la maladie et des catastrophes. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne confiait ses angoisses et ses problèmes qu'à Allah en priorité. Et il était l'être humain le plus valeureux, la meilleure des créatures que Allah ait créées. Il fut pourtant touché par la fièvre et la maladie. Et en plus de toutes ses occupations quotidiennes, en plus des difficultés liées à l'appel vers la religion d'Allah, en plus des attaques incessantes de ses opposants, en plus de la faim, en plus de la soif, en plus du décès de ses enfants, en plus du décès de ses proches, il fut touché par une grave fièvre qui envahit tout son corps. Le compagnon Ibn Mas'ud radiallahu anhu raconte, « Je suis allé visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai trouvé souffrant, malade et allongé. La fièvre était telle qu'il tremblait excessivement de tout son corps. Je posais ma main sur son noble corps et je lui dis, « Ô messager d'Allah, je sacrifierai pour toi mon père et ma mère. Tu souffres d'une maladie qui a l'air très grave. » Il dit, « Oui, en effet, je souffre plus que l'un d'entre vous s'il était à ma place. Je souffre deux fois plus que l'un d'entre vous s'il était à ma place. » Ibn Mas'ud radiallahu anhu répondit alors, « Alors tu seras récompensé deux fois plus que nous. » Et il répondit sallallahu alayhi wa sallam, « En effet, lorsqu'un être humain est touché par une maladie ou une difficulté ou une tristesse, Allah efface par cela ses péchés. » Son épouse bien-aimée est rentrée un jour voir son bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle se plaint alors à lui d'un mal de tête. Il était alors lui-même dans la maladie qui allait conduire à sa mort. Et il lui répondit, « J'ai moi-même une terrible migraine, à un tel point que je crois que je vais convoquer ton père et ton frère et leur écrire un message. » Il savait clairement à ce moment-là qu'il allait bientôt mourir. Il fut bientôt secoué par de violentes douleurs qui allaient précéder sa mort. Sa maladie était d'une intensité insupportable, mes frères. Pourtant, lorsqu'il entendit Bilal faire l'appel à la prière et proclamer la grandeur divine, il prouva que son cœur, lui, était bien vivant. Il dit, « Préparez-moi de l'eau, afin que je fasse mes ablutions et que j'aille diriger la prière à la mosquée. » Ceux qui étaient avec lui lui conseillèrent de ne pas se lever, car il était très souffrant. Il répondit, « Ferai-je la prière chez moi, alors que j'entends l'appel à la prière ?» On mit alors à sa disposition un récipient rempli d'eau. Il se lava. Il fit ses ablutions. Puis, lorsqu'il se leva pour sortir vers la mosquée, il perdit connaissance et tomba par terre. On lui représenta de l'eau. Il se lava de nouveau, puis reperdit connaissance. On lui représente de l'eau. Il se lave une troisième fois, puis repère connaissance. Une quatrième fois, une cinquième fois. Il se résigne finalement à la volonté d'Allah, et alors que ses larmes coulent sur son visage abondamment, il dit, demandez à Abu Bakr de diriger la prière. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, notre prophète bien-aimé a patienté et il a enduré tous les événements que nous venons de partager et bien d'autres encore. Car Allah lui a demandé, patiente donc d'une belle patience. Alors je m'adresse à nous, je m'adresse à vous, nous les musulmans, nous qui sommes les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous qui sommes ses élèves. Si un malheur vous atteint, mes frères, pensez donc au malheur qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle que soit l'épreuve qui vous arrive, pensez à la recommandation d'Allah, patiente donc d'une belle patience. Toutes les catastrophes sont supportables, sauf celle de la religion. Tous les malheurs sont endurables, sauf le fait d'être mis de côté par Allah et d'être loin de son Seigneur. Toutes les épreuves sont tolérables, mes frères, sauf le fait de ne pas côtoyer les mosquées, le livre sacré, le Coran et le rappel d'Allah. Tous les drames sont surmontables, sauf celui de laisser de côté la religion. Alors mon frère, ma sœur, donne à la religion la place qu'elle mérite dans ton cœur. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.